Vous êtes bien sur les ondes de Plume FM que vous écoutez sur le 102.1 ou sur le site www.plumefm.net dans ce temps du rancard en direct à partir de 12h15 du lundi au vendredi et en rediffusion à partir de 18h15. Cette interview, comme toutes les autres, sera mise dès cet après-midi même, je pense, en podcast sur le site, à la rubrique donc des podcasts, assez facile et très simple à récupérer. En ce lundi, on accueille une voix que vous avez l'habitude d'entendre sur Plume FM. Il s'agit de Marie-Emmanuelle Grignon qui fait partie du webzine Écho Breton. Bonjour Marie.
Bonjour Jessica, bonjour à tous.
Et bienvenue donc sur nos ondes. Alors je disais, on a l'habitude de t'entendre. Alors déjà, tu es bénévole de Plume FM depuis très longtemps. Donc celles et ceux qui nous écoutent depuis très longtemps se souviennent des clics-claps.
Oui.
Et oui, hein, ça date un peu, mais quand même, c'était emblématique. Et puis, on te retrouve toutes les semaines, surtout dans la revue de presse.
Oui, le vendredi matin.
Le vendredi matin dans la plume matinale de Clément avec Mathieu qui fait cette revue de presse en ta compagnie. Aujourd'hui, on t'accueille pour parler d'un financement participatif que vous venez tout juste de lancer il y a quelques jours sur le site helloasso.com avec pour objectif de recevoir autant d'argent que possible. Vous êtes fixé 3000 euros. Il reste 45 jours pour y participer, donc vous avez largement le temps. Mais quoique généralement, quand on y pense, il faut le faire tout de suite parce que sinon, le temps peut passer. Avant de parler de cette campagne de financement participatif, un mot déjà sur Écho Breton. On peut retrouver sur Internet, donc c'est un web média, c'est ça ?
Tout à fait. C'est un web média qui existe depuis en fait 2008. Enfin, on a une histoire un petit peu compliquée parce que l'association est née en 2008. Elle s'appelait Bretagne Durable. Alors pour ceux qui se rappellent, Bretagne Durable, c'était un magazine en ligne comme maintenant hein, qui s'appelait bretagne-durable.info, qui est né en 2009 et voilà. Moi, j'ai commencé à travailler là-bas en 2010 et en 2011, on avait lancé un magazine papier qui s'appelait aussi à l'époque Bretagne Durable. Donc, entre 2011 et 2013, on faisait l'édition du papier et du magazine en ligne. Et après, en 2013, il y a eu une séparation en fait, des fondateurs qui ont choisi de fonder une SCOP pour éditer le magazine papier, parce qu'en fait, le magazine papier rapportait de l'argent à l'association, donc c'était plus trop en cohérence avec le projet de base. Donc, voilà, ils sont partis monter leur SCOP avec le magazine qui s'appelle maintenant Sans Transition.
Donc voilà, qu'on retrouve toujours, par contre. Il n'y a pas eu de changement depuis, Sans Transition.
Voilà. Et nous, en fait, on est resté sous forme associative et sous forme web en s'appelant éco-breton.info. Et l'association, au départ, s'appelait Bretagne Durable et Solidaire. Et maintenant, elle s'appelle Écho Breton. Enfin, il y a eu pas mal d'évolutions. Donc maintenant, ça y est, c'est fixé. On s'appelle Écho Breton et on édite un web média sur les transitions écologiques en Bretagne.
Et toi, dans cette aventure-là, tu es journaliste. Tu couvres toute la Bretagne, finalement ? À la recherche d'initiatives autour du développement durable, etc.
Oui, c'est ça. En ce moment, je fais un peu de coordination aussi, donc je suis un peu sur les deux tableaux. Mais oui, sinon, nous, on couvre toute la Bretagne et la Loire-Atlantique aussi à la recherche des initiatives montées par les citoyens, les associations, les collectivités aussi, même certaines entreprises. Enfin, toutes les initiatives en termes de développement durable et solidaire en Bretagne.
T'es toute seule en ce moment sur le webzine ?
Oui, je suis toute seule.
Quel courage !
Eh ben, on tient la boutique, comme on dit. On essaye de mettre un article par jour. Donc, on a aussi une partie collaborative, en fait, sur le site qu'on appelle les plumes citoyennes. Donc, les gens peuvent nous envoyer des articles. On a des citoyens qui le font, des associations aussi. Donc, on relit un petit peu, on corrige s'il y a besoin. On fait un accompagnement à l'écriture. Bon, par mail, hein, souvent, ou par téléphone, parce qu'on ne peut pas toujours se déplacer partout. Et après, on publie. Donc, il y a une partie aussi collaborative sur le site.
Alors déjà que les déplacements doivent être assez conséquents en ce qui te concerne, effectivement, quand on peut gagner un peu de temps et d'argent, c'est pas plus mal. Donc un article par jour que tu vas réaliser et mettre en ligne, toi ou d'autres. Quel est le dernier article que tu as publié là ? C'est comme tu veux d'ailleurs. T'as peut-être le prochain plutôt en tête.
Le dernier c'était vendredi en fait, c'était parce que ce week-end comme samedi j'étais aux assises régionales de la vie associative. On s'est croisés d'ailleurs.
Oui.
Du coup j'ai pas mis d'article ce week-end, mais sinon vendredi c'était en fait le vendredi où on a ce qu'on appelle l'idée sortie. C'est l'événement du week-end qu'on conseille aux gens, en fait. Et c'était les 30 ans de la LPO d'Ille-et-Vilaine, avec la visite d'Alain Bougain,
Dubourg.
Dubourg, j'arrive jamais à prononcer son nom.
Tu l'as rencontré alors ?
Non, mais en fait, c'était juste pour annoncer que ça se passait dimanche. J'y suis pas allée, parce que je peux pas aller partout non plus, mais non, je l'ai pas rencontré. Mais il me semble que certains de l'association l'ont déjà rencontré il y a quelques années.
Alors, comment les gens font pour avoir un article sur leur activité ? C'est eux qui te contactent ou c'est toi qui vas à la pêche à toutes les initiatives autour des transitions ?
Bah, les deux.
Les deux.
Les deux. On a beaucoup de gens qui nous contactent. On a des communiqués de presse, mais dans tous les sens. Ça demande beaucoup de temps de trier, de voir ce qui est intéressant ou pas, parce qu'on reçoit aussi des trucs concernant Paris, donc nous, qui ne nous intéressent pas forcément. Ou des trucs qui ne sont pas dans notre ligne éditoriale. Donc, il faut trier. On a beaucoup de gens aussi qui nous appellent ou qui nous envoient un petit mail pour nous dire « Ah bah voilà, il y a ça, je connais telle initiative, ça serait super de faire un article. » Beaucoup de bouche à oreille, en fait. Et puis aussi, on est en veille tout le temps sur les infos. Enfin, faut tout le temps regarder ce qui se passe, tout le temps suivre la presse, tout le temps suivre les newsletters. Enfin, ça demande pas mal de travail. Il faut avoir ses antennes un petit peu tout le temps allumées.
Et est-ce que c'est également réparti entre les différents départements bretons ? Les informations que tu vas pouvoir recevoir et traiter.
Alors,
sous-entendu, est-ce que chaque département a bien avancé sur ces notions de transition ?
Bah, nous, c'est vrai que notre siège est basé à Morlaix, donc forcément, on a beaucoup d'informations qui viennent de Morlaix. On suit pas mal ce qui se passe là-bas, notamment au niveau du pôle ESS, parce qu'on est dans le même bâtiment que le pôle ESS et plusieurs autres associations dans le développement durable et solidaire. Donc, pour avoir les infos, c'est super simple. Avec tous ces gens-là. Du côté de Rennes aussi, ça bouge beaucoup. Et du côté de Brest, donc les grosses métropoles bretonnes. Mais on voit aussi que dans les campagnes, ça bouge pas mal. Notamment dans le Morbihan et je pense aussi du côté des Monts d'Arrée, dans le Finistère. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Alors, il y a un petit creux là en ce moment dans le centre Bretagne. Donc, d'ailleurs, je lance un appel. S'il y a des gens qui nous écoutent dans le centre Bretagne, il ne faut pas hésiter à nous communiquer des infos parce qu'on n'en a pas beaucoup. Ou alors c'est plutôt caché, enfin, on ne sait pas trop ce qui se passe dans le centre Bretagne, mais on voit que voilà, dans les villes comme Brest ou Rennes, il y a des gros mouvements autour du développement durable et beaucoup de gens qui font des choses en commun.
Alors quelle initiative, tu en as eu tellement je suppose depuis le temps que tu travailles auprès d'Éco-Breton, mais est-ce que tu te souviens d'une ou plusieurs initiatives vraiment originales ou sympas ou des coups de cœur ? C'est compliqué la question.
Ouais, c'est compliqué parce qu'il y en a vraiment énormément, beaucoup. Je pense tout ce qui est le mouvement des Fab Labs, en fait, ça commence à bien prendre. Et il y en a même dans des coins, je parlais du centre Bretagne, par exemple, il y en a un, Rostrenin, ils sont hyper actifs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué.
Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est qu'un Fab Lab?
C'est vrai, on en parle comme ça, mais on ne dit pas ce que c'est. C'est ce qu'on appelle un lieu, enfin ça peut même être un tiers-lieu en fait. C'est un tiers-lieu, en fait, c'est un lieu qui est à cheval entre la maison et le travail en fait. C'est vraiment au milieu, c'est à la fois un lieu convivial ou un lieu où également on peut travailler. Les Fab Labs, c'est un petit peu des laboratoires de fabrication, c'est-à-dire c'est des gens qui vont se réunir pour mettre en place des processus pour fabriquer, bricoler, pour inventer des choses. Et c'est une espèce de local où on va trouver beaucoup de géo-trouve-tout, en fait, qui vont vouloir inventer des choses. Donc, il y a des imprimantes 3D, il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est un peu ambiance prof de techno et tout. C'est assez rigolo, assez branché informatique. Là, par exemple, à Rostrenin, je pense à ça, ils ont un atelier le week-end prochain. C'est sur la fabrication de butaphone. En fait, c'est des instruments de musique à base de bouteilles de gaz. Donc voilà, ça va chercher loin
ça
quand
va
même.
Chercher
c'est,
loin.
C'est hyper original. Donc voilà, c'est ça qui se passe dans les Fab Labs. On fabrique des trucs ensemble, on teste un peu, voir si ça marche. Et puis chacun peut y aller en fait avec son idée de fabrication. Et puis c'est un truc qui est en plein développement. Il y en a partout maintenant. Il y en a à Pontivy, Rostrenin, Vannes, Lannion, Brest, Morlaix. Il y a deux projets de Fab Labs. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à la mode.
Peut-être aussi un mouvement qu'on retrouve un peu partout, c'est les monnaies locales et complémentaires. Oui. Tu as dû voir aussi naître toutes ces monnaies au fur et à mesure là, sur ces dernières années ou depuis que tu travailles à Éco-Breton, un peu partout.
Bah oui, c'est vrai que depuis 8 ans, là, ça a explosé en Bretagne. Alors il y en a à Morlaix, le Buzuc, que j'avais suivi parce que j'ai fait partie de l'assaut là-bas aussi un moment, sur mon temps libre. Le galet à Pleurmel, la bise à Vannes, c'était la dernière année. Ça. C'est vrai que ça a été un gros mouvement. C'est apparu avec le Galéco à Rennes et l'Éole à Brest. Et puis après, voilà, il y en a eu un peu partout dans la région. Et c'est hyper dynamique en Bretagne. Au niveau des monnaies locales, c'est une région de France où il y en a vraiment Pas mal. Alors, il y en a aussi qui ont disparu, comme la sardine à Concarneau. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais voilà, pour l'instant, les autres poursuivent leur petit bonhomme de chemin. Et puis,
alors, on voit que la transition écologique en Bretagne se passe bien, se déroule bien. Ça avance, en tout cas.
C'est ça. On est pas mal placé. Et au niveau des collectivités aussi, ça suit quand même le mouvement. On est assez... précurseur
en France. Alors là, le webzine a besoin de soutien financier. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a peut-être des baisses de subventions, il y a des difficultés économiques qui sont apparues au fur et à mesure des années. Pour rester en tant que webzine indépendant, etc., ça ne doit pas être si évident que ça, je suppose.
Non, c'est pas évident. Puis on se rend compte que les associations, au fur et à mesure des années, on n'est pas spécialement aidés. Enfin, en tout cas, pas davantage. Mmh. Ça va plutôt en diminuant, notamment avec les contrats aidés. Là, on a pris une sacrée claque cet été avec l'annonce de la baisse des contrats aidés. Et puis voilà, on a vu qu'effectivement, il n'y a plus de contrats aidés. Donc, on avait un contrat aidé, on l'a perdu. Donc, ça ne nous a pas aidés non plus, hein, forcément, comme beaucoup d'associations. Et puis, il y a beaucoup de subventions maintenant qui sont versées de plus en plus en retard. On ne sait pas pourquoi. On n'a pas d'explication. On ne nous en donne pas, d'ailleurs. Mmh. Et on a beaucoup de subventions qui sont versées plus tard qu'avant. Avant, ça pouvait arriver en janvier, février. Maintenant, c'est mars, avril. Et forcément, ça apporte moins d'argent, parce qu'en plus, du coup, on a toujours les charges à payer. Enfin, ça ne bouge pas. Mais voilà, ça crée des trous dans la trésorerie, parce qu'on attend des subventions qui n'arrivent pas. Donc ça commence sur un an, ça va, mais quand c'est deux ans de suite, ça met en péril les associations et les postes.
Donc là, difficulté économique due notamment aux prises de décision gouvernementales, on peut le dire, et puis sur des délais de plus ou moins longs de versement dans les subventions. Vous dépendez beaucoup de subventions ? T'as à peu près la répartition en tête ? Ça représente combien sur votre budget ?
Je dirais que ça représente 80-90%. C'est vraiment énorme. Notre plus grosse part de subvention, en fait, c'est la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, avec un fonds qui s'appelle Média de Proximité, qui a été lancé, il me semble que c'était en 2015 ou 2016. Enfin, c'est assez récent. Donc ça, c'est notre plus grosse partie finance. C'est un peu comme le FSER, en fait, pour les radios. Mmh. C'est un peu le même système. Et sinon, on a des aides des collectivités locales, conseil départemental du Finistère, Morlaix Communauté, conseil régional aussi pour mon poste, emploi associatif régional.
Qui se termine dont le dispositif se termine aussi.
Ça se termine cette année, ouais.
Voilà.
Donc ça va être compliqué en 2019 aussi, donc on commence déjà à y réfléchir. Ouais.
Est-ce que vous avez des financements privés, des entreprises, des associations,
Des fondations.
Des fondations.
L'année dernière, on a eu la fondation Léa Nature, qui nous a soutenus sur un projet sur le littoral, qui a été aussi cofinancé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. En fait, c'était une série d'articles sur l'eau. Et on avait organisé aussi un ciné-débat sur les océans. Et du coup, la fondation Léa Nature nous a soutenus sur ce projet-là. Donc, c'était une première pour nous qu'une fondation nous soutienne. Donc, on va essayer de développer ça aussi cette année, l'année prochaine.
Parce que les articles que vous produisez, on entend bien, ils sont gratuits.
Oui.
Les gens ne payent pas pour avoir cette promotion-là sur le site, finalement.
Oui.
Donc, c'est que, faut chercher des financements par ailleurs, quoi.
Tout à fait. Et on fait aussi un petit peu de prestations de service. On fait quelques vidéos, on anime des tables rondes, des ciné-débats. Ça nous permet aussi d'assurer un financement et de sortir un peu du système tout subvention, parce que ça aussi, c'est...
Oui, alors justement, compliqué. Je voyais que vous avez pu bénéficier du diagnostic local d'accompagnement, le DLA, un dispositif qu'on conseille vivement d'ailleurs à toutes les associations qui se posent des questions et qui sont en difficulté, pas que financière d'ailleurs, parce que le DLA permet de travailler l'organisation, le projet associatif, les statuts, etc. Mais quand même, je pense que beaucoup d'associations aujourd'hui les sollicitent pour la diversification des ressources. Le DLA s'est terminé. Et donc là, je suppose que le financement participatif, c'était une des pistes soulevées par le DLA au vu de diversifier vos ressources.
Oui, c'était exactement ça, ouais. Ouais, c'était... en fait, on a élaboré deux scénarios avec le DLA. C'est soit on reste comme on est maintenant, c'est-à-dire avec une salariée, on survit, quoi. Ou soit on essaye de développer un modèle plus fort, qui couvre vraiment toute la région, qui a davantage de poids, qui a une image plus forte. Et le financement participatif, c'était un des moyens aussi d'y arriver et de fédérer aussi des gens autour d'associations. Parce que tu sais, on est en manque de bénévoles. Enfin, je veux pas faire le tableau tout en noir, mais c'est dans toutes les associations, c'est la question de la transmission. Oui. Donc on a des jeunes bénévoles qui sont arrivés, d'ailleurs des anciens services civiques qui sont arrivés dans le CA là pour essayer de faire un peu bouger tout ça. Et on aimerait bien que ça se poursuive et qu'ils puissent rester encore un moment et que d'autres encore viennent, parce qu'on a beaucoup de choses à faire encore.
Et oui, et puis comme on le voyait, vous ne manquez pas de boulot.
Non.
En fait, toute seule là, oui, je suppose que ça doit pas être si simple. Du coup, l'association Éco-Breton a besoin de 3000 euros. En tout cas, c'est l'objectif que vous êtes fixé sur helloasso.com. On peut participer comme d'habitude en donnant ce qu'on veut. Oui. C'est ça. Et il y a des contreparties ou pas?
Oui, il y a des contreparties. Alors, on a essayé de mettre un peu des contreparties sympas, entre guillemets. Il y a par exemple un goûter qui est proposé à partir de 20 euros, un goûter pour rencontrer l'équipe. On a fait plusieurs fiches tuto aussi sur notre site pour apprendre aux gens à faire des meubles en palette, par exemple, des choses un peu do it yourself. Donc, on va éditer un petit livret là-dessus et puis envoyer aux gens qui auront donné plus de 50 euros. On a aussi un partenariat avec deux maisons d'édition, en fait, Locus Solus, qui est une maison d'édition bretonne, qui est basée à Châtelain, et Terre Vivante, qui est une maison d'édition spécialisée dans l'environnement, qui est basée dans le sud de la France, mais qui fait des bouquins super. Enfin, nous, on en parle souvent, du coup, sur notre site, parce que c'est un petit peu la référence des maisons d'édition dans le domaine. Et eux nous ont offert des ouvrages qu'on va offrir aux gens qui auront donné plus de 100 euros.
Donc là, aujourd'hui, on est, je regardais là juste avant, on est à 10% à peu près des objectifs. En tant que, là, quand on lance ce genre de financement, on a accès aussi, vous savez qui vous a donné oui. pour le moment et combien. Il y a des surprises dans les premiers donateurs, il y a des gens auxquels on ne s'attendait pas du tout et qui aident.
Oui, il y a des gens d'autres régions de France, en fait, qui ne sont pas de Bretagne et qui trouvent visiblement le projet sympa et qui nous aident. Alors, c'est super sympa. Il y a des gens de l'Oise, par exemple, ou de centre de la France. On ne les connaît absolument pas. On ne savait même pas qu'on avait des lecteurs là-bas. Et du coup, voilà, des gens qui nous apportent leur soutien parce qu'ils trouvent le projet vraisemblablement sympa et voudraient qu'on continue. On a aussi des assos dont on a parlé sur notre site, dont on a fait des articles, qui nous soutiennent en retour. Ça, c'est super sympa parce que voilà, on leur a filé aussi un petit coup de pouce, je pense, en parlant d'eux, en faisant un article sur eux. Bah, en échange, voilà, ils nous offrent aussi un don. Et tous les dons sont déductibles fiscalement parce qu'on est reconnu d'intérêt général, donc...
Donc, vous pouvez délivrer le petit reçu qui dit qu'on a bien donné tant et qu'on peut déduire. Et tu as raison de le préciser parce que là, je viens d'entendre ce matin que ça y est, on pouvait faire sa déclaration.
Oui, ça y est, bon. Les déclarations sont arrivées.
On est dedans, donc il n'y a pas de montant minimum.
On a mis 5 euros.
5 euros.
Mais alors c'est marrant parce que c'est pas un don qu'on retrouve le plus en ce moment, c'est plutôt des gros dons, donc on est assez surpris.
Tant mieux, c'est plutôt bien parti.
C'est super chouette.
Donc là, ça veut dire que sur les 45 jours restants, vous allez communiquer à fond pour que toutes celles et ceux qui ont envie de vous soutenir le fassent, autant qu'ils le peuvent, c'est ça. Donc beaucoup de travail là encore pour faire vivre cette plateforme.
Ah bah tous les jours, il faut communiquer, relayer. Là, on va faire du mailing qu'on n'a pas eu le temps de faire encore, mais là, on va relancer toutes les associations dont on a parlé depuis 2008, parce qu'on a fait un recensement de tous les articles qui ont été faits depuis 2008.
Et combien d'articles, du coup, tu sais ?
3000.
Oh là là, oui.
Donc, c'est un gros boulot qui a été fait par des bénévoles de chez nous qui ont recensé tout ce qui avait été fait. Donc, on a les contacts. Donc, maintenant, on va envoyer des mails à tous ces gens-là pour leur dire « Aidez-nous, relayez l'info ». Sur Facebook aussi, ça va être pas mal relayé. Enfin, on relaie tous les jours, en fait. Enfin, faut jamais s'arrêter, ça demande beaucoup d'énergie. De toute façon, un financement participatif, faut y aller. C'est la bagarre, quoi. Enfin, tout le monde, c'est pareil. De toute façon, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc,
ouais. Et c'est vrai qu'on en discutait. On reçoit de plus en plus de personnes sur Plume FM qui lancent des campagnes de financement participatif, quel que soit d'ailleurs... leur domaine de compétences, leurs objectifs, etc. Et on voit que ça demande quand même beaucoup de ténacité pour communiquer là-dessus. 45 jours, ça paraît long, mais il faut être au taquet, je suppose, et ça demande beaucoup d'énergie.
Tout à fait. Ça passe très, très vite. Et nous aussi, on a parlé beaucoup de... beaucoup de fois de financement participatif sur notre site.
Et oui.
Là encore, on a parlé il n'y a pas longtemps de Permagraine, qui est une ferme en permaculture à Rennes, une micro-ferme là, qui avait un super projet de développer d'acheter des vélos électriques en fait, pour faire la livraison de légumes. Et eux, c'est pareil, ils ont lancé un financement participatif. Et c'est très régulièrement que nous, on reçoit des demandes de soutien aussi. Et quand on peut faire un article sur le sujet, ben, on le fait bien volontiers, parce qu'on est tous dans la même situation, je crois. On a besoin de s'aider les uns les autres. Alors,
solidarité.
Voilà.
Alors, que se passe-t-il quand on n'a pas atteint l'objectif au bout des 45 jours ?
Eh ben, sur Hello Asso, on reçoit quand même ce qu'on collecte, en fait. Il n'y a pas besoin d'atteindre l'objectif.
L'objectif, oui. Contrairement à d'autres plateformes, ouais. Où là, c'est un peu comme si on n'arrive pas, tout retombe à zéro, quoi.
Oui, c'est le cas sur Ulule ou KissKissBankBank, qui en plus prennent des frais, en fait. Il y a 8% de frais sur Ulule sur la collecte. Donc ça, il faut le savoir, on ne le sait pas forcément. Et alors après, il y a aussi des sites bretons. Enfin, c'est pareil, c'est un peu le même fonctionnement. Il y a tellement de plateformes.
Oui, il y en a beaucoup. Ouais. J'ai peur de dire...
Kengo,
voilà,
il y a
Kengo. Voilà, si, c'est ça, Kengo.
Oui, il y en a vraiment beaucoup. Et Hello Asso, l'intérêt, c'est que enfin, il y a tout un package d'outils pour les assos aussi, notamment pour les adhésions. On peut faire des adhésions en ligne. Donc ça, c'était très pratique. Donc c'est vrai que c'est assez sympa comme outil. Peut-être moins connu qu'Ulule, mais très sympa.
De plus en plus, je pense. En tout cas, là, sur les derniers que nous, on a pu relayer aussi, on est plus sur du Hello Asso qu'on a quitté un peu le Ulule, sans doute pour les raisons dont tu as parlé, là, par rapport aux frais que les plateformes prennent au passage. Comment on peut aider ? On peut aider donc sur la plateforme, mais on peut aussi envoyer des chèques.
Oui.
Pour celles et ceux qui seraient un petit peu réfractaires quant aux coordonnées bancaires qu'on laisse sur Internet, on peut comprendre, même si c'est sécurisé. Bon, voilà, on sait que certains ont un peu plus de mal à laisser leurs coordonnées. On peut vous envoyer des chèques à qui on envoie Hello Asso, à Eco Breton directement à Morlaix.
On peut envoyer directement à Hello Asso, mais ça prend un peu de temps parce que ça passe par un prestataire extérieur. Mmh. On peut envoyer directement à Morlaix aussi. Notre adresse est, je ne sais pas par contre si elle est sur Hello Asso, mais elle est en tout cas sur notre site ecobreton.info, elle est en bas, tout est indiqué, comment nous contacter. Donc les gens peuvent envoyer des chèques. Les gens peuvent passer aussi à Morlaix, déposer du liquide hein, s'ils ont envie. On est à la maison de l'ESS à Morlaix, à Quai-Rosard, dans le parc d'un château. C'est très chouette.
C'est joli, ah ouais ?
Magnifique, ouais. C'est un grand bâtiment et puis c'est dans le parc d'un château et on est entouré d'associations dans le domaine du développement durable et solidaire et de l'ESS. Donc c'est vraiment un pôle d'activité qui est tout récent, qui a un an.
Donc un bel environnement de travail.
Tout à fait.
Qu'on peut aller visiter
pour
l'occasion. Allez hop,
on participe
à cette campagne. Je t'avais posé la question tout à l'heure du dernier article que tu avais posté. Quel est le prochain ?
Alors le prochain, ça va être un article sur des projets en fait qui sont soumis au vote du public. C'est une opération qui a été montée par le ministère du développement durable qui s'appelle Mon projet, ma planète. Donc en fait, il y a eu un premier vote et là actuellement, il y a 30 projets bretons plus une dizaine en Loire-Atlantique en fait qui sont soumis là au vote des internautes. Et plus il y aura de votes, plus il y aura d'argent. Mmh. Donc il y a des projets super sympas, d'écolieux, de choses comme ça. Donc ça va être le prochain article qui doit être publié normalement en fin d'après-midi aujourd'hui.
Si t'as le temps, c'est ça ?
C'est ça. Non, mais normalement, ça sera bon. C'est un peu la course en ce moment, mais oui, en tout cas, le prochain, ça sera ça.
Bon, en tout cas, on peut le retrouver sur eco-breton.info, c'est ça ?
C'est ça.
Et puis, dans tous les cas, on peut t'écouter tous les vendredis matins. Tu nous redonnes à chaque fois tu fais une sélection de 3-4 articles de la semaine.
Oui.
C'est ça, et dans cette revue de presse diffusée tous les vendredis à 10h30.
C'est ça.
Avec Clément et ou Mathieu.
Ouais. D'accord. C'est ça.
Ouais, merci beaucoup, Marie. On souhaite plein de bonnes choses à Eco Breton. On redonne donc cette possibilité de participer aux 3000 euros espérés par Eco Breton. Il nous reste 45 jours pour y participer. L'adresse est un peu compliquée. Sur helloasso.com, on peut retrouver facilement. On tape Eco-Breton et au pluriel. Et on se retrouve sur le site direct, la page qui vous concerne.
C'est ça.
C'est ça. Merci beaucoup. Bon retour à Morlaix. Ça fait combien de route, là ?
Là, je vais à Loudéac.
Quelques transitions entre les deux, c'est ça ?
Je fais une halte au passage. Mais sinon, Morlaix, c'est à 2h, ouais.
Ouais, bon. Et on capte pas plus MFM à Morlaix, on le dit tout de suite.
Non, mais à Loudéac, on capte.
Et voilà. Donc, tout va bien. Merci beaucoup. Bon retour en tout cas. Et puis, on continuera à relayer cet appel à financement participatif sur les ondes de Plume FM, évidemment. Merci Marie.
Eh ben, merci Jessica.
À bientôt. Merci à Malo pour la technique. On vous souhaite une belle journée sous le soleil. On y croit. En tout cas, il fait bon. Ou un bon début de soirée si vous écoutez la rediffusion. Dans tous les cas, on vous dit à bientôt sur Plume FM.